France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui les petits revenants. Notre invitée Marie Dauzet, avocate pénaliste qui défend le rapatriement de ses enfants prisonniers en Syrie et au Kurdistan. Bonjour Marie Dauzet.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste très engagée dans le retour de ces enfants français qui se retrouvent prisonniers en Syrie ou au Kurdistan. Je parle d'enfants âgés d'un an à 14 ans, dont les pères ou les mères ont quitté la France pour rejoindre Daesh. Vous avez déclaré « Le retour des djihadistes est inéluctable, le débat arrive trop tard ». Est-ce que vous pourriez aller plus loin dans cette déclaration, nous expliquer pourquoi vous l'avez faite et ce que vous voulez dire ?
D'abord, ces enfants, les deux tiers, ont moins de 6 ans. Donc, ils ne sont pas tous nés là-bas et certains d'entre eux ont grandi en France avant d'être emmenés là-bas. Mmh. Et pourquoi ces retours sont inéluctables? Tout simplement parce que ils sont pris entre plusieurs étaux. Vous avez d'un côté l'État islamique qui les attend avec une grande impatience pour en faire des enfants soldats. Vous avez de l'autre côté les Turcs qui attendent d'attaquer les Kurdes.
Qui ont eux-mêmes combattu Daesh.
Évidemment. Et ces enfants sont actuellement dans une zone de guerre de non-droit. Et qu'ils risquent effectivement d'être récupérés par le pire. Donc c'est inéluctable parce qu'il faut les sauver, ils sont innocents. Ils n'ont pas demandé à naître là-bas ou à être emmenés là-bas. Et c'est inéluctable parce que nous devons nous protéger de ce que là-bas ils vont faire de ces enfants. Donc voilà, d'ailleurs tout était prêt. En février 2019, il y avait un plan de rapatriement qui était préparé, organisé par les services de renseignement français. Et puis, parce que l'opinion publique a considéré qu'il ne fallait pas que ces enfants rentrent et que les pouvoirs publics écoutent un peu trop une partie de l'opinion publique, ou en tout cas une certaine opinion publique, eh bien, ils ne sont pas rentrés.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, une certaine opinion publique? Qui dit quoi? Qui pense quoi?
Parce que vous savez, ça fait 2 ans que j'essaye d'expliquer que, d'abord, un enfant est une victime de guerre. D'accord? Et qu'il n'y a pas d'endoctrinement d'un enfant quand il a 1 an, 2 ans, 3 ans,
c'est
pour
clair.
Les 2/3 d'enfants de 6 ans, et que de toute façon, ce sont des enfants français qu'il faut sauver. Au tout départ, il y a 2 ans, j'étais effectivement pas entendue. Il y avait une période post-attentat, qui est toujours d'ailleurs, cette période-là. Mais on ne voulait pas entendre parler de retour, même des enfants, parce que on les considérait finalement aussi responsables que leurs parents, c'est qu'ils sont complètement dingues. Et puis petit à petit, moi j'entends les gens évoluer. J'entends les mots se prononcer différemment. J'entends les doutes, j'entends les pas qui se font. Alors que ce gouvernement a décidé de figer l'opinion publique dans ce qu'elle a de pire. L'opinion publique, c'est pas que la fachosphère. C'est pas que la fachosphère. Et je crois qu'à un moment donné, ce qui est intéressant ou ce qui doit être fait quand on est un homme politique, c'est de prendre de la distance. Parce que sinon, vous savez, la peine de mort, elle serait toujours en France ce que les Français réclament, c'est-à-dire elle n'aurait jamais été abolie.
Oui.
Donc voilà, c'est tout. Je crois qu'à un moment donné, le devoir d'un politique, c'est de prendre la distance. Là, en l'occurrence, c'est une question humanitaire, mais c'est aussi une question sécuritaire.
Vous parliez des Français, de la France, qui doit rapatrier les enfants français. Certes, elle peut aller plus loin aussi. Les enfants étrangers, elle peut aussi les récupérer.
Vous savez, elle a déjà...
Non, c'est déjà assez difficile avec les Français, d'accord.
Mais pour l'instant, mais il faut qu'on reste un peu pragmatique. Voilà 2 années que c'est non. Que ces enfants et leurs mères doivent rester dans des camps où 390 enfants sont décédés à Halol depuis la chute de Baghouz. 390 enfants, est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Les conditions sanitaires dans ces camps, ce n'est pas moi qui les définis comme cela, ce sont les Kurdes eux-mêmes. Jamais les camps n'ont été, un camp n'a été aussi dangereux pour les enfants. 390 enfants.
Donc vous nous dites qu'on manque de ce qu'on appelle une volonté politique. La volonté politique, c'est parfois aller à l'encontre de la majorité sociologique. C'est ça.
Je pense tout simplement que la France doit prendre ses responsabilités. Excusez-moi, c'est pas l'avocate qui le dit, le défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, les Nations unies et le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations unies. Tous exhortent les États étrangers, et donc la France en tout premier lieu, puisque c'est le plus gros contingent, à rapatrier leurs ressortissants. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que la France regarde en face les conséquences de son inertie. Ça bombarde, ça bombarde, la Turquie bombarde, Trump s'en va, les Kurdes vont fuir, l'État islamique les attendent. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 15 jours, al-Baghdadi a appelé ses combattants à aller les chercher? Bien sûr, al-Baghdadi, le chef de Daesh, a appelé ses combattants à venir chercher les femmes, les enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de créer, les attentats de demain?
Alors justement, puisque vous parliez d'approche humanitaire et d'approche politique, on va illustrer ça avec deux déclarations, deux archives que nous allons écouter ensemble. J'imagine que vous connaissez l'ONG Save the Children, dont nous allons entendre une représentante, Joëlle Bassoul. Et ensuite, pour l'approche politique, nous écouterons Xavier Bertrand, qui est président de la région Hauts-de-France. On va les écouter les uns après les autres. Donc Joëlle Bassoul d'abord, Xavier Bertrand ensuite.
Ces enfants sont en premier les victimes de ce conflit. Même si leurs parents sont liés à l'État islamique, eux, c'est des enfants. Actuellement, les zones où ils se trouvent sont des zones de combat. Il n'y a aucune infrastructure légale pour les prendre en charge, même pour pouvoir mettre leurs parents face à leurs responsabilités légales. Ça n'existe pas en Syrie, donc c'est le devoir de leur pays d'origine de les reprendre pour pouvoir les réintégrer dans la société.
À propos du rapatriement des enfants de djihadistes, qu'on appelle les petits revenants, c'est devenu une sorte de débat politique un peu oiseux. Vous en avez appelé à Emmanuel Macron et au gouvernement pendant toute cette émission. Est-ce que vous considérez qu'ils font le boulot correctement? Cette semaine, 5 ont été ramenés en moins de 5 ans.
Xavier Bertrand.
Dans une famille qui est de la région, avec leur grand-mère, avec qui j'étais en contact, qui m'a expliqué. Situation très particulière, leur maman a été tuée. Et là, ces enfants, dans une situation sanitaire très difficile, notamment un qui a un an, était proposé de les faire revenir, mais pas n'importe comment, chez leur grand-mère. Cette décision a un caractère humanitaire. Je pense que cette décision est celle qu'il fallait prendre. Maintenant, pour le reste, il ne peut pas y avoir de généralisation. Et tous ceux qui sont allés faire le djihad pour s'en prendre à la France, cela, il y a un principe, on doit se protéger au maximum et tout faire pour qu'ils ne reviennent pas et qu'ils soient condamnés. Ma seule règle, c'est l'intérêt général de la France et des Français.
Qu'en pensez-vous?
Je pense
ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà,
non, mais
ça
illustre. Je pense qu'il sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Se protéger au maximum de ces gens, c'est évidemment les ramener. Je rappelle qu'au Kurdistan syrien, la justice n'existe pas. Il n'y a pas d'institution judiciaire, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tribunal. Je rappelle que ces femmes, lorsqu'on nous explique qu'elles doivent être jugées là-bas, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas de tribunal. Le Kurdistan syrien, ce n'est pas un État. La justice syrienne, elle n'existe pas. Toutes ces femmes font l'objet d'un mandat d'arrêt international en France, d'un juge antiterroriste français. Et rien d'autre, elles ne sont judiciarisées qu'en France. Donc lorsqu'il explique que se protéger de ces femmes, c'est les laisser demain entre l'État islamique, après-demain entre deux bombes turques qui vont faire en sorte qu'elles vont pouvoir retrouver un groupuscule terroriste qui n'attend que ça, c'est complètement irresponsable. Mais il le sait au fond. Au fond, il le sait. Donc d'un côté, on nous sort la carte humanitaire, on en a rapatrié un, mais pas de généralité, ah bon?
Ah, c'est ça.
Mais le fait du prince, c'est quoi? Vous vous rendez compte? Toi, t'as le droit d'être sauvé, la France te sauve, par contre, toi, tu meurs dans un camp. Parce que t'as pas de chance, ta maman est en vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur?
C'est le au cas par cas qui vous choque. Il le dit, hein, on fait au cas par cas, on ne va pas généraliser.
Monsieur, il en reste 210. Il reste 210 enfants qui sont en train de crever dans ces camps parce que leur mère est en vie. C'est ça le cas par cas? C'est ça l'humanitaire de ce nouveau monde? Non mais, je ne peux pas croire que cet homme politique pense crédible ce qu'il est en train de raconter. Voilà. Je sais très bien que l'histoire, un jour, va leur revenir tous comme un boomerang. L'histoire jugera, mais dans quelques jours et dans quelques semaines. Ça y est. Erdogan est aux portes, Trump s'en va, et l'État islamique les attend. Voilà. Ça sera d'une histoire qui n'est pas l'histoire de Daesh, qui est l'histoire de France. Depuis 2 ans, ce qui se passe dans ces camps, c'est pas la responsabilité de Daesh. C'est la responsabilité de la France qui refuse de rapatrier ces femmes pour qu'on s'en protège, pour les plus dangereuses d'entre elles, et qui refuse de sauver des enfants qui sont innocents. C'est tout.
J'imagine les gens qui nous écoutent, qui ont entendu parler, on leur a dit aux informations que Daesh a été battu ici et là, a subi pas mal de revers. Enfin, Daesh existe toujours.
Non seulement il existe toujours, mais si ces personnes écoutent la radio, et notamment la vôtre, ils savent que depuis 2 mois, l'État islamique reprend du galon.
Ouais.
Et lorsque leur chef, al-Baghdadi, demande de sauver ses femmes et ses enfants, de les libérer pour mieux se les réapproprier, c'est pour faire grossir ses rangs. Ils sont toujours prêts, ils sont toujours là. Et nous, on leur offre sur un plateau des enfants et des femmes français pour se protéger au maximum, comme le disait M. Xavier Bertrand. Formidable.
Marie Dosé, Serge Effez, psychiatre qui a suivi le retour d'une dizaine d'enfants, dit ils sont traumatisés comme des enfants de la guerre et de l'exil, mais pour ce qui concerne l'endoctrinement, c'est très flou. Ils sont trop petits, tout est ouvert devant eux. Alors c'est pas très clair, parce qu'évidemment, un gamin d'un an, il peut pas être endoctriné. Qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Ce qu'il veut juste nous dire, c'est qu'ils sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu, mais que c'est pas un endoctrinement, comme toutes les victimes de guerre. C'est-à-dire que c'est des gamins, et moi je les connais, je les vois grandir depuis 2 ans grâce à mon téléphone portable, qui devient un véritable outil d'information. Chaque nuit, ces femmes, avec leur téléphone, me donnent des nouvelles de leurs enfants, donc je les vois grandir, ou plutôt ne pas grandir. Ce sont des enfants qui ont les yeux vides, qui sont effectivement marqués par les bombes, par les bombardements, par les avions, qui ont très peur des avions, et puis qui ont un quotidien avec le néant, rien, des cailloux.
Racontez-nous ça.
Mais les camps, un camp, ce n'est rien. C'est une tante, une mère qui vous aime, et tout le reste, le néant. Des Kurdes qui patrouillent, des femmes extrêmement radicalisées, violentes, qui menacent les mères de brûler leurs tentes si elles demandent leur rapatriement en France. Donc on reconstruit l'État islamique, c'est un Guantanamo avec des enfants. Donc ces enfants-là, non seulement ont vécu la guerre, mais depuis quelques mois, ou près de 2 ans pour certains d'entre eux, se trouvent dans un néant absolu qui s'appelle le camp Roj, le camp Alol ou le camp Inissa. Donc ce sont des gamins qui ont besoin d'être soignés, ce sont des victimes, elles sont traumatisées. Mais ce ne sont pas des enfants qui sont endoctrinés. Pour être endoctriné, encore faut-il avoir la faculté d'ingérer une doctrine. Donc ça n'a strictement aucun sens.
C'est bien ce qui me semblait. J'essayais de comprendre entre les lignes. Alors,
mais oui. Excusez-moi, j'ai rencontré il y a très peu de temps Boris Cyrulnik, que vous invitez régulièrement dans vos émissions, et qui partageait évidemment, non pas mon sentiment, mais le triste constat qui est le mien, qui disait plus le temps passe, plus c'est compliqué de les soigner. Et j'avoue que pour certains d'entre eux, je ne supporte plus ce qu'il se passe, parce que je vois à quel point s'ancre le traumatisme. Et je me dis, mais il y a 2 ans, on aurait pu le sauver tellement, non pas facilement, mais avec tellement plus de facilité. Leur plus bel âge, leur plus bel atout, c'est leur âge. C'est justement leur âge. Donc il aurait fallu les cueillir là, tout de suite, pour pouvoir justement les sortir plus vite de leur traumatisme. Et Boris Cyrulnik le dit, plus on attend, plus ce sera difficile.
Et je vois là que c'est une question d'urgence à tous les niveaux. Ceux qui y sont, il faut y aller, absolument, et vite. Et puis, il faut qu'ils soient rapatriés le plus jeune possible. Tout est question d'urgence, là, non ?
Urgence sécuritaire, urgence humanitaire. Urgence sécuritaire, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, on fabrique les attentats et les terroristes de demain. Et urgence humanitaire, parce que c'est maintenant qu'il faut les sauver, si on veut les sauver pour toujours. Et il y a une chose à laquelle je pense souvent, et c'est ce que finalement démontre l'appel d'al-Baghdadi, cette absence totale d'humanité, en disant non, ce sont des enfants qui sont des enfants de Français qui se sont trompés, donc ils ne méritent que la mort, Daesh l'attendait de notre part. Notre échec, c'est la victoire de Daesh. Le fait qu'on mette nos valeurs de côté, nos valeurs républicaines, nos valeurs humanitaires de côté, c'est ce que voulait Daesh. Et là-dessus, force est de constater quand même que sur ce registre précis, il est en train de gagner, et moi je me bats contre cela. Ouais.
Est-ce qu'on a des chiffres précis, ou au moins des proportions, combien sont revenus déjà les enfants avec leur mère parmi tous ceux qui sont partis?
Alors, je souris, ça se voit pas, on est à la radio, mais je souris parce que c'est quand même extraordinaire. Depuis le début, depuis donc, on est 2013, les premiers départs, 2012-2013, au 1er octobre 2018, 300 majeurs et mineurs sont déjà rentrés. Des personnes qui ont fui l'État islamique, qui arrivent en Turquie, et là vous avez l'accord Cazeneuve, dès qu'ils arrivent en Turquie, ils sont expulsés vers la France. Ces enfants, sur les 300, je crois qu'il y avait 75-80 enfants, ont été placés par l'aide sociale à l'enfance, sont retournés chez leurs grands-parents, chez leurs tantes, il n'y a aucune difficulté. Ces femmes, elles sont judiciarisées en France, il n'y a aucune difficulté. Ces hommes sont judiciarisés en France, il n'y a aucune difficulté. Donc, de toute façon, il y a déjà 300 majeurs et mineurs qui sont rentrés
en France. Donc, il n'y a pas d'excuses ?
Mais non ! Actuellement, il y aurait entre 200 et 250 enfants français et une centaine de femmes qui sont dans ces camps, en train de périr. Et on nous dit, vous vous rendez compte, on n'a pas les moyens. Mais ça suffit, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et je rappelle que les juges antiterroristes étaient prêts. En février 2019, ils ont tous annulé leurs vacances. Elles vont rentrer et elles vont toutes être mises en examen et elles vont toutes aller à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Tout était prêt. Et puis, on a arrêté parce qu'un sondage a dit on ne veut pas qu'elles rentrent.
Et les gamins, alors, ceux qui sont rentrés, comment ça s'est passé? Parce qu'effectivement, il y a cette question d'urgence de les faire rentrer, ceux qui sont encore là-bas, et puis il y a ceux qui sont ici. Donc ça a été quoi le parcours? Je sais pas, à travers un ou deux exemples, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Moi, je m'occupe des grands-parents dont les enfants orphelins sont rentrés. Donc tout de suite, ils sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont d'abord pris en charge médicalement. Ce sont des enfants qui ne sont pas vaccinés, qui sont carencés, qui ont été malnutris, qui sont déshydratés, qui sont malades, le plus souvent. Parce que dans ces camps, les maladies, c'est tout de même la règle. Donc, d'abord, on les soigne. Ensuite, on les place dans des familles d'accueil. Pourquoi ? Parce qu'il faut un milieu neutre, avec famille d'accueil, psychologue, psychiatre, éducateur. On diligente une enquête chez les grands-parents, pour voir si effectivement il n'y a pas de difficulté pour d'abord pour les rencontrer, pour tisser un lien et puis ensuite pour les prendre en charge. Et petit à petit, c'est ainsi que l'enfant retrouve sa famille. Voilà. Et ça se passe véritablement sans difficulté. Les services de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis sont spécifiquement formés à cela.
Et vous connaissez des familles, vous avez rencontré des enfants, des familles. Comment c'est quoi le discours, enfin, je ne vais pas dire le discours de l'enfant type qui revient, parce que évidemment on ne peut pas généraliser, mais qu'est-ce qu'ils disent ces gosses, c'est quoi, comment ils expriment leurs souvenirs, qu'est-ce qu'ils comprennent ou ne comprennent pas? Alors on va prendre des gamins de 7 à 10 ans par exemple, qui ont déjà une conscience, pas les bébés quoi.
Tout ce que je peux vous dire, parce que je veux préserver leur histoire et leur intimité, ce que je peux vous dire, ce qui m'a marqué moi, c'est que ce sont d'abord des enfants qui ne parlent pas. Et que quand pour certains d'entre eux on essaye de parler de tout ça, ils ferment la bouche avec leur petite main de celui qui en parle. Donc il faut les soigner. Ce sont des enfants qui ont besoin d'être soignés.
Votre combat, il n'est pas facile, vous le disiez dès le début, puisqu'il se heurte à une majorité sociologique qui dit oh là, c'est dangereux, il ne faut pas les faire revenir. Vous n'avez pas l'impression parfois de prêcher dans le désert, bien que ça ne vous décourage pas, j'imagine, quand on mène un combat, s'il est difficile, il est difficile. Mais comment vous le sentez? Comment vous sentez
ce qui me désespère,
la tension que vous pouvez générer?
Non, ce qui me désespère, c'est que ce soit un combat. Moi, je ne pensais pas que ça serait un combat. Un jour, si on m'avait dit, il y a 20 ans, tu vas devoir combattre pour que des enfants innocents ne périssent pas dans des camps au Kurdistan syrien, j'aurais éclaté de rire. Moi, j'ai pas prêté serment pour ça. Le fait que ce soit un combat est désespérant. Mais c'est comme ça. On a la société qu'on mérite aussi. Donc, il faut lutter contre ce qu'elle charrie de pire. Chacun avec ses moyens, donc moi avec le droit.
Savez-vous comment ça se passe dans d'autres pays, dont certains ressortissants sont allés combattre, se faire embrigader, pour la plupart se faire tuer d'ailleurs?
Les États-Unis ont rapatrié, la Russie a rapatrié, la Tchétchénie a rapatrié, le Kosovo a rapatrié, la Suisse. Enfin, il y a une semaine, a dit on arrête là, on va rapatrier. L'Australie, même chose. Je pense que les autres pays européens attendent la France. Ils attendent la France parce que c'est en France qu'il y a eu le plus grand nombre de départs vers la Syrie. Et que si Emmanuel Macron faisait œuvre de pédagogie et prenait une heure pour expliquer aux Français qu'il en va de leur sécurité et que sur un registre humanitaire, il faut les rapatrier, eh bien, il n'y aurait pas de difficulté pour que l'Allemagne et la Belgique suivent.
Il en va de notre sécurité, effectivement, à long terme. Sauf que les gens, là, pour le coup, réfléchissent à court terme. Ils voient un danger immédiat, qui n'est d'ailleurs pas un danger, ils en oublient le vrai danger qui, lui, est différé dans le temps.
Les gens.
Enfin, les gens.
Moi, je les vois. Non, mais je les vois changer, les gens.
Oui,
je les entends, je les écoute. Vous savez, il n'y a pas que Twitter ou Facebook. Moi, il y a plein de messages. Il y a plein de messages au cabinet qui. De plus en plus de gens qui me disent vous avez raison. On n'était pas d'accord avec vous au début, mais vous avez raison. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Donc, je crois pas. Il ne faut pas figer l'opinion publique dans la pire des émotions qu'elle a pu avoir. Il ne faut pas la figer. Il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent me voir. À la Sorbonne, on fait une thèse sur tout ça, c'est scandaleux, maître. Il y a une troupe de théâtre extraordinaire qui est en train d'écrire une pièce sur tout ça. Je crois pas. Ce pays ne peut pas être ça. C'est pas possible. Au plus profond de moi, au plus profond de moi, je sais que c'est pas possible.
Mais ce sera le mot de la fin en forme de vœu, Marie Dauzet. Merci infiniment. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Les Petits Revenants. Une fiction écrite par Vincent Daigre, réalisée par Laure Egoroff. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Lioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Juliette Delperrault.